Vous écoutez, on lit pour vous.
L'axolote, un animal fascinant. Un texte de Vincent Bigras, paru en 2022 dans Le Voyageur. Corps et attitude. L'axolote ressemble beaucoup à une salamandre tigrée. Il a 6 branchies et une longue queue très mince. À la naissance, l'axolote mesure à peu près 1 mm. Il peut atteindre une taille de 30 cm. Il a des poumons qui lui permettent de demeurer 3 ans en dehors de l'eau. Il existe 3 sortes d'axolotes. L'axolote de forme sauvage, qui est souvent brun ou bleu et qui vit dans les lacs. L'axolote leucistique, qui est rose, blanc, avec des yeux noirs bleutés, et il vit dans des grottes ou des lacs souterrains. Enfin, il y a l'axolote albinos, qui est blanc ou doré avec des yeux rouges. Ce dernier existe seulement en captivité. Il a été créé dans un laboratoire américain en 1950 grâce au croisement d'une salamandre tigrée et un axolote. Il aime beaucoup se cacher sous des branches ou dans des petits trous dans des roches. Mon axolote adore se cacher dans mes petits coraux dans mon aquarium. Il aime aussi se cacher dans des petits trous ou dans des petites fentes entre les roches. L'axolote est menacé d'extinction. Il n'en reste pas beaucoup dans le monde. Pour rendre un axolote heureux, ça lui prend un endroit frais et calme, beaucoup d'obscurité, ainsi que de l'eau froide. C'était L'axolote, un animal fascinant. Un texte de Vincent Bigras, paru en 2022. Dans Le Voyageur.
Une subvention pour mieux comprendre la neurodégénérescence. Un texte de UdeM Nouvelles, paru le 9 avril 2026. Une équipe de recherche menée par Shadi Rahayel, professeur au département de médecine de l'Université de Montréal, a reçu une subvention de 300 000 $ sur 2 ans de Brain Canada et de la Fondation Krembill. Le programme d'accélération neurodégénérescence X-Immunologie vise à soutenir des projets audacieux et originaux pour comprendre le rôle du système immunitaire dans la neurodégénérescence, notamment la maladie de Parkinson. Ce financement permet au professeur de poursuivre ses recherches sur le trouble du comportement en sommeil paradoxal isolé, un important signe précurseur de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy. De nouvelles données sont recueillies auprès d'une importante cohorte clinique de patients suivis depuis près de 2 décennies à Montréal. Nous aimerions voir si l'inflammation dans le sang est liée aux changements dans le cerveau qui se produisent chez les personnes atteintes du trouble du comportement en sommeil paradoxal isolé, résume Shadi Rahayel, dont le laboratoire est spécialisé dans l'analyse d'images obtenues par résonance magnétique. Ce trouble du sommeil, qui se manifeste vers l'âge de 50 ans, rend les personnes très agitées durant la phase de sommeil paradoxal où l'on est normalement paralysé. La force de l'interdisciplinarité. Cette subvention vise également à encourager les collaborations interdisciplinaires. Mon laboratoire essaie de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, mais on n'est pas spécialisé dans le sang. Note Shadi Rahayel. Pour faire ce lien, il s'est entouré de Martine Tétrault, professeure au département de neurosciences de l'Université de Montréal, ainsi que de 2 chercheurs de l'Université McGill, Joan Stratton et Ronald Postuma. Est-ce que les changements observés dans le cerveau sont associés à la présence d'inflammation? À l'inverse, est-ce que l'inflammation dans le sang peut être liée à un changement dans le cerveau? C'est à ce genre de questions que Shadi Rahayel espère répondre grâce à l'expertise complémentaire de ses collègues. Il serait intéressant de pouvoir associer des marqueurs inflammatoires dans le sang à un stade de la maladie ou à une région du cerveau atteinte, dit-il. Le chercheur souligne que ce type de travaux peut ouvrir de nouvelles voies de diagnostic et de traitement. Le milieu de la recherche commence enfin à comprendre l'importance de travailler en collaboration pour avoir une vision réaliste du corps humain. C'est ce qu'une subvention comme celle-ci permet de faire, conclut-il. C'était « Une subvention pour mieux comprendre la neurodégénérescence », un texte de UDM Nouvelles, paru le 9 avril 2026.
Des vélos sans données. Un texte de Mathieu Murphy-Perron paru le 2 avril 2026 dans la presse. Mathieu Murphy-Perron est cycliste 4 saisons et militant pour la mobilité douce avec Vélorution Montréal ainsi que le collectif Souliers et Vélo Fantôme Québec. À Montréal, il suffit de se placer quelques minutes au coin d'une rue pour comprendre que le vélo n'est plus marginal. Il est partout. Le matin, le soir, en plein hiver, sous la pluie, avec des enfants à l'arrière ou des sacs d'épicerie accrochés au guidon. Et pourtant, depuis le 18 mars 2026, cette réalité-là n'a plus de traduction publique dans les données. La suspension de la diffusion des données de comptage vélo par éco-compteur, faute de financement par la nouvelle administration municipale de Soraya Martinez-Ferrada, pourrait passer pour un détail technique. Elle enlève en fait un des rares outils qui permettait de sortir la discussion du terrain des impressions. Parce que ces compteurs faisaient quelque chose de simple et de précieux. Ils rendaient visible, noir sur blanc, l'évolution des usages. Pas à travers des sondages, pas à travers des déclarations, mais à partir de passages réels, comptés, cumulés, comparés. Ils permettaient de répondre à une question qui revient sans cesse, dès qu'on parle de vélo. Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que les gens les utilisent, ces aménagements? À quel point? Sans ces chiffres, la réponse devient immédiatement plus floue. On retombe dans des discussions où chacun peut s'appuyer sur ce qu'il croit voir ou ne pas voir selon son propre trajet, son quartier, ses habitudes. Et dans ce flou, certaines positions deviennent beaucoup plus faciles à tenir. L'affaiblissement tranquille. Officiellement, il s'agit d'un enjeu de financement. Officieusement, difficile de ne pas remarquer une accumulation de décisions qui, mises bout à bout, affaiblissent tranquillement ce qui permet de comprendre, de suivre et de défendre la mobilité active. On ralentit ici, on revoit là, on suspend ailleurs. Rien de spectaculaire, rien qui fasse les manchettes à lui seul, mais une série de gestes modestes qui ont un effet cumulatif. Rendre plus difficile la démonstration que ces transformations fonctionnent. Dans ce contexte, perdre l'accès à des données aussi élémentaires que des comptages de passage n'est pas anodin. On accepte difficilement de piloter n'importe quelle autre infrastructure sans données. On mesure les flux, on suit les volumes, on ajuste en conséquence. On ne dirait pas pour un réseau routier que documenter l'usage est optionnel selon les budgets de l'année. Pour le vélo, manifestement, ça reste négociable. Comme si cette part de la mobilité devait encore en permanence prouver qu'elle mérite d'être prise au sérieux. Il ne s'agit pas ici d'un grand complot ni d'une décision spectaculaire, juste d'un relâchement, d'un manque d'attention, d'un choix de ne pas prioriser un outil pourtant essentiel pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ces choix-là ont des conséquences, parce qu'ils changent subtilement le poids que certaines réalités occupent dans l'espace public. Ce qui n'est plus mesuré devient plus facile à minimiser. Ce qui n'est plus publié devient plus facile à ignorer. Et ce qui est plus facile à ignorer devient, à terme, plus facile à remettre en question. Les personnes à vélo vont continuer de circuler. Elles n'ont pas besoin de capteurs pour exister. Mais sans ces données, elles perdent une partie de leur poids dans les décisions qui façonnent la ville. et à force de multiplier les petits gestes qui vont tous dans la même direction, on finit par transformer ce qui devrait être une évidence observable en quelque chose qu'il faudrait, encore une fois, défendre. C'était « Des vélos sans donner », un texte de Mathieu Murphy Perron, paru le 2 avril 2026 dans la presse.
Des groupes de médecins s'inquiètent du projet de loi contre la stérilisation forcée. Un texte de Anna Alberga de la presse canadienne paru le 7 avril 2026 dans Le Devoir. Les survivantes de stérilisation forcée ou contrainte, dont beaucoup sont autochtones, militent pour une loi qui criminaliserait explicitement cette pratique, mais plusieurs associations de médecins et groupes juridiques craignent que le projet de loi n'amène les médecins à hésiter lorsque la vie d'un patient est en danger. L'objectif du projet de loi, condamner la stérilisation sans consentement éclairé, bénéficie d'un soutien unanime, y compris de la part des groupes médicaux qui ont fait part de leurs inquiétudes quant à ses conséquences imprévues lors des audiences d'un comité de la Chambre des communes. Le Cercle des survivants pour la justice reproductive estime qu'entre 12 000 et 15 000 Autochtones ont été stérilisés sans leur consentement au Canada depuis les années 1890, certaines aussi récemment que l'année dernière. Ces chiffres s'appuient sur des recherches historiques, des poursuites judiciaires, des études, des dossiers de facturation médicale et des demandes d'inscription au registre national du groupe lancé en 2024. Les survivantes cherchent à faire criminaliser cet acte depuis 2015. Cela donne une force à la loi, alors que les patients qui ont subi cela n'ont jamais pu avoir un accès adéquat à la justice, a fait valoir le docteur Don Wilson, obstétricien gynécologue, membre de la nation Ailtsuk en Colombie-Britannique et expert médical pour le Cercle des survivants pour la justice reproductive. Le docteur Wilson a déclaré qu'il n'avait connaissance d'aucun médecin ayant été inculpé pour stérilisation forcée ou contrainte et qu'il ne connaissait donc aucune patiente ayant obtenu justice de manière effective. Le projet de loi a été présenté par le gouvernement précédent en 2022 et relancé sous le nom de projet de loi S-228 en 2025. Il a été adopté par le Sénat l'automne dernier et est actuellement examiné par un comité de la Chambre des communes. Si le projet de loi S-228 est adopté, le code criminel sera modifié pour préciser qu'un acte exécuté sur une personne qui a pour effet d'empêcher la procréation de façon définitive sans consentement légal constitue une agression grave, passible d'une peine maximale de 14 ans. Cette définition inclut le sectionnement, l'occlusion, la ligature ou la cautérisation de l'ensemble ou d'une partie des trompes de Fallope, des ovaires ou de l'utérus. Parmi les personnes qui ont récemment témoigné devant le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord figurait Sylvia Mekai, une femme crie de 52 ans originaire de la Première Nation de Pipikissis en Saskatchewan, qui affirme avoir été stérilisée contre son gré après avoir accouché en 2001. « J'étais tellement vulnérable et impuissante », a raconté Mme Mekai, qui a partagé son expérience pour la première fois publiquement il y a 10 ans et a témoigné devant le Comité sénatorial permanent des droits de la personne en 2022. Elle est également plaignante dans une action collective en Saskatchewan, l'une des nombreuses affaires civiles en cours à travers le pays. « Cette expérience terrifiante a laissé un vide en moi », a-t-elle confié. Conséquences inattendues. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, SOGC, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, la Fédération des femmes médecins du Canada et Action Canada pour la santé et les droits sexuels affirment soutenir l'intention de ce projet de loi, mettre fin à la stérilisation non consentie. Cependant,
Elle s'inquiète des conséquences imprévues pour les soins de santé des femmes et ont soumis des mémoires en ce sens au comité, dénonçant notamment, dans le cas de la SOGC, un manque de consultation discutable auprès des médecins et des chirurgiens. La docteure Maudup Tandy-Bias, obstétricienne gynécologue, a noté que si un médecin hésitait ne serait-ce qu'une fraction de seconde à se demander s'il risquait d'être poursuivi en justice pour avoir agi en situation d'urgence sans consentement, une patiente pourrait mourir d'une rupture de grossesse extra-utérine lorsque l'ovule fécondé éclate en dehors de l'utérus ou d'une hémorragie postpartum due à un segment excessif après l'accouchement. Dans une situation d'urgence, ma question est la suivante. Qui détermine ce qu'est un consentement suffisant? A demandé au comité la docteure Tandy Bias, présidente de la Fédération des femmes médecins du Canada. Ces décisions doivent être prises sur la base de critères purement cliniques, sans crainte de poursuite pénale. Madame Tandy Bias a soutenu que les efforts devraient se concentrer sur la mise en place d'un processus de consentement à l'échelle nationale pour les prestataires de soins de santé, plutôt que sur la criminalisation de la santé reproductive au Canada. La criminalisation ne résoudra pas le racisme structurel et la discrimination systémique qui permettent à ces actes odieux de se produire et qui continuent à ce jour d'avoir un impact sur des populations qui méritent l'équité, a-t-elle déclaré. Le docteur Wilson, qui exerce en obstétrique et gynécologie depuis près de 2 décennies, a déclaré qu'il connaissait bien les situations cliniques pouvant rendre le consentement éclairé pratiquement impossible, et qu'il comprenait les préoccupations de ses collègues, mais qu'il soutenait néanmoins l'adoption du projet de loi. « Je suis ici pour essayer de mettre l'expérience des survivantes au centre », a-t-il déclaré au comité. Si vous écoutez les arguments des survivantes, elles soulignent souvent le fait que lorsque les médecins sont menacés sur le plan juridique, ils disposent d'énormes moyens juridiques pour se protéger et que la charge de la preuve incombe à ces patientes vulnérables, a souligné le docteur Wilson lors d'une entrevue ultérieure. Il est déjà illégal de pratiquer une intervention chirurgicale sur une personne sans son consentement éclairé. Mais le docteur Wilson a indiqué que les survivantes souhaitent un filet de sécurité juridique qui traite spécifiquement de la stérilisation non consentie. La sénatrice Yvonne Boyer a rappelé que l'article 45 du Code criminel protège les médecins agissant dans des situations d'urgence visant à sauver une vie, que l'adoption de ce projet de loi ne changera rien à cela et qu'il ne vise pas non plus à criminaliser les soins légaux, médicalement nécessaires ou dispensés avec le consentement du patient. « Rien ne change à cet égard », a déclaré Mme Boyer à la Chambre des communes. Le Cercle des survivants pour la justice reproductive a également soulevé que le projet de loi ne modifie pas les protections juridiques actuelles dont bénéficient les médecins dans les cas d'urgence mettant la vie en danger. Les médecins peuvent être assurés que lorsqu'ils sauvent des vies, ils ne seront pas tenus pénalement responsables si ces mesures de sauvetage entraînent une stérilisation permanente en tant que conséquence à des soins vitaux, a déclaré la directrice exécutive Harmony Red Sky dans un courriel rédigé au nom de l'organisation. Le courriel précise également que les survivantes signalent qu'elles ne constatent aucune responsabilité ou conséquence dans le cadre des dispositions existantes. Le projet de loi S-228 ne vise pas à restreindre les soins. Il vise à garantir que le consentement soit véritablement valide, éclairé, protégé, continu et exécutoire. Le projet de loi bénéficie du soutien de l'Association médicale canadienne, qui décrit le projet de loi S-228 comme une mesure législative essentielle. La présidente de l'association, la docteure Margot Burnell, a exprimé son soutien sans réserve au projet de loi. Accès à la contraception. Amanda Terrien, avocate à l'Association nationale Femmes et droits, a reconnu que l'article 45 continuerait de protéger les médecins si le projet de loi était adopté, mais elle a ajouté que la loi était moins claire concernant certaines situations médicales non urgentes, telles que la prescription de médicaments anticancéreux pouvant entraîner une infertilité plus tard dans la vie. « Je pense qu'il y a là une lacune », a déclaré Mme Therrien. Et cela pourrait avoir un effet dissuasif, les médecins pouvant hésiter à prescrire une contraception permanente, voire temporaire, susceptible d'entraîner une infertilité. Elle a ajouté craindre également que le projet de loi ne réduise le nombre de médecins proposant une contraception permanente, en particulier pour les personnes victimes de violences familiales et de coercitions reproductives, et a suggéré de modifier le libellé du projet de loi afin d'indiquer explicitement qu'il ne devrait pas en limiter l'accès. Nous craignons simplement que le droit pénal ne soit un outil trop brutal, a expliqué Mme Therrien. L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec a indiqué dans un mémoire que, d'après son expérience, un climat de crainte entraîne quasi inévitablement un « chilling effect ». Les professionnels évitent des actes parfaitement légitimes lorsque la frontière entre le permis et l'interdit devient incertaine, ou lorsque le risque de plainte, d'enquête ou de contestation judiciaire augmente. Le groupe a déclaré qu'il rejetait le projet de loi compte tenu des risques graves qu'il fait peser sur les patientes, les médecins et le système de santé. La présidente de la SOGC, la docteure Lynn Murphy-Colbeck, a affirmé qu'elle craignait que cela ne constitue une pente glissante susceptible, paradoxalement, de nuire à l'accès aux soins de santé reproductive et de mettre les femmes en danger. C'est, je pense, la chose la plus difficile à dire à ce sujet, à faire passer, mais en adoptant ce projet de loi, on fait presque le contraire, ou on risque d'avoir l'effet inverse. On va priver les femmes de l'accès aux soins. C'était « Des groupes de médecins s'inquiètent du projet de loi contre la stérilisation forcée », un texte de Hannah Alberga de la presse canadienne paru le 7 avril 2026 dans Le Devoir.
Météorite, le désert agit comme une archive, selon le géologue Pierre Rochette. Un texte de Louis Tardy, paru le 13 avril 2026 dans Géo. Dans les régions désertiques, les météorites offrent une occasion unique d'étudier l'histoire du système solaire. Contrairement aux environnements humides, où ces roches se dégradent rapidement, les conditions arides permettent leur conservation sur de longues périodes. Selon le géologue Pierre Rochette, le désert agit comme une véritable archive naturelle. Une météorite tombée au sol s'enfonce légèrement dans le sable, mais sous l'effet du vent. Elle peut réapparaître et rester visible pendant des milliers d'années. Un environnement idéal pour la conservation. La plupart des météorites contiennent du métal et des sulfures qui rouillent rapidement au contact de l'humidité. Dans des climats tempérés, elles finissent par se désagréger et disparaître en quelques siècles. Dans les zones désertiques, ce processus est beaucoup plus lent. Le manque d'humidité limite l'oxydation, ce qui permet aux météorites de conserver leur structure plus longtemps. C'est ce qui rend ces régions particulièrement intéressantes pour les chercheurs qui peuvent y retrouver des fragments anciens et mieux préservés. Comment reconnaître une météorite? Les météorites présentent des caractéristiques distinctives. Leur forme n'est ni parfaitement arrondie, ni anguleuse. Elles possèdent souvent une surface noire due à la chaleur intense subie lors de leur entrée dans l'atmosphère. Avec le temps, cette surface peut devenir brun-rouge et présenter des fissures liées à l'oxydation. Elles réagissent généralement à un aimant, bien que certaines roches terrestres riches en fer puissent également présenter cette propriété. Une analyse en laboratoire est donc nécessaire pour confirmer leur origine. Une présence discrète mais constante. Chaque année, des météorites tombent sur Terre en quantité relativement uniforme. Toutefois, leur découverte dépend fortement de l'environnement. Dans certaines régions désertiques, la densité observée peut atteindre environ une météorite par kilomètre carré. Avec une équipe expérimentée, il est possible d'en repérer régulièrement. Certaines zones du monde, comme l'Antarctique ou le désert d'Atacama, présentent des concentrations encore plus élevées, mais d'autres régions possèdent des caractéristiques uniques. Des cratères d'impact remarquables. Dans certaines zones désertiques, on observe une particularité étonnante, une forte présence de cratères d'impact. Ces formations résultent de collisions entre la Terre et des astéroïdes. Elles peuvent atteindre plusieurs kilomètres de diamètre et conserver des structures distinctives pendant des millions d'années. Certains cratères présentent un relief central appelé « piton central », formé lorsque le sol rebondit après l'impact. Ce type de structure est caractéristique des impacts les plus importants. Identifier l'origine d'un cratère. La forme circulaire d'un relief ne suffit pas à confirmer qu'il s'agit d'un cratère d'impact. Les scientifiques doivent analyser des indices microscopiques. Les cristaux de quartz présents dans les roches peuvent être déformés par les pressions extrêmes générées lors d'un impact. Ces structures spécifiques, observables au microscope, permettent de confirmer l'origine météoritique d'un cratère. Comprendre les impacts à l'échelle planétaire. L'étude des cratères permet également d'évaluer les risques liés aux impacts d'astéroïdes. Un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre correspond à un événement majeur capable d'avoir des conséquences importantes à l'échelle de la planète. Cependant, sans datation précise, il est difficile d'estimer la fréquence de ces événements. Au fil du temps, l'érosion, le climat et les mouvements tectoniques modifient ces structures, transformant progressivement ces traces d'impact en éléments du paysage. C'était Météorite, le désert agit comme une archive, selon le géologue Pierre Rochette, un texte de Louis Tardy, paru le 13 avril 2026 dans Géo.